Merci d'écouter RFI, 2h à Paris et Kinshasa, 1h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Et 3h à Bujumbura, au Burundi, où le président Evariste Ndayishimiye s'alarme de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon lui, le conflit pourrait déborder dans d'autres pays de la région. Il condamne également le soutien du Rwanda au groupe M23. Au Soudan, une frappe imputée aux paramilitaires FSR a tué 54 personnes dans la banlieue de Khartoum ce samedi. Les forces de soutien rapide qui combattent l'armée régulière soudanaise démentent. Israël et le Hamas vont bel et bien reprendre leurs négociations de paix lundi, des pourparlers indirects via les médiateurs américains, égyptiens et qatariens. Discussion pour tenter de s'entendre sur la deuxième phase de l'accord de trêve en vigueur afin de libérer tous les otages du Hamas et de mettre définitivement fin à la guerre à Gaza. Et puis c'était annoncé depuis vendredi, Donald Trump a confirmé ce samedi l'application de droits de douane qui toucheront le Mexique, le Canada et la Chine. Le risque d'un embrasement régional, c'est la crainte partagée ce samedi par le président du Burundi à propos du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Evariste Ndayishimiye dit craindre une guerre qui toucherait son pays, mais aussi la Tanzanie, le Kenya ou encore l'Ouganda. Le dirigeant pointe directement le rôle du Rwanda, soutien du M23. Il appelle à la communauté internationale à prendre la menace au sérieux. Un message qui résonne une semaine après le début de l'offensive du M23 sur Goma, des combats qui ont fait au moins 700 morts selon l'ONU. Le bilan avait été annoncé ce vendredi. Et depuis, les habitants de la capitale du Nord Kivu essaient tant bien que mal de retrouver un semblant de normalité. Alexis Guilleux.
Sur le marché, des femmes en pagne accueillent les clients. Certaines vendent de l'huile, d'autres des légumes. Mouisa Alice dit avoir bravé sa peur pour chercher de quoi nourrir ses enfants.
Je vends du sombé car mes enfants risquent de mourir à la maison à cause de la faim. Aujourd'hui, il y a des clients, mais ils disent ne pas avoir d'argent. J'ai peur quand il y a trop de bruit. Ça me rappelle les balles qui ont été tirées.
Un peu plus loin, au marché à la ligne, la présence de commerçants crée des embouteillages. Toumaini et Luanda sont venus de Minova pour vendre leurs produits.
Nous avons apporté du sombé pour le vendre et essayer d'améliorer nos conditions de vie. Quand il y a une guerre, on reste à la maison sans emploi. Alors maintenant, c'est une chance de pouvoir retravailler un peu. J'achète du sombé que je viens revendre ici.
Je vends des bananes plantains de Minova. Un régime, je le vends entre 25 000 et 30 000 francs, soit autour de 10 euros. Je viens de passer près de 2 ans sans pouvoir faire mon commerce. Je vivais dans un camp sans travailler et je dormais même par terre.
Les routes principales d'approvisionnement de Goma sont désormais rouvertes.
Alexis Guilleux, un bombardement au bilan particulièrement lourd sur un marché de la banlieue de Khartoum au Soudan. 54 personnes ont été tuées ce samedi par une frappe imputée au FSR. Les paramilitaires des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023 ont démenti cette accusation. Libérer tous les otages du Hamas et mettre définitivement fin à la guerre à Gaza, deux objectifs sur lesquels vont plancher à partir de lundi à Washington les négociateurs israéliens envoyés avec l'envoyé spécial américain sur le Proche-Orient. Israël l'a confirmé ce samedi, il s'agit de la deuxième phase de la trêve entrée en vigueur le 19 janvier dernier. La première, elle visait à libérer 33 otages israéliens en échange de 1900 détenus palestiniens. Ce samedi, ce sont 3 otages israéliens qui ont été délivrés contre 182 palestiniens et un égyptien. Cela fait une semaine qu'il n'y a pas eu de nouvelles traces de craie sur les tableaux noirs des écoles du Kurdistan irakien. Les établissements sont tous fermés. Les professeurs sont en fait en grève pour réclamer le paiement de leur salaire. Sauf que celui-ci est gelé à cause de désaccords entre le gouvernement régional kurde et l'État central irakien. Les négociations reprennent ce week-end et pour accentuer la pression, certains enseignants de la ville de Slemani ont entamé une grève de la faim. Lucas Lazo.
10 professeurs ont installé leur lit de camp sous les fenêtres des Nations Unies à Slemani, deuxième ville du Kurdistan. Pas question de les en déloger avant que leur salaire de décembre et janvier ne soit versé. Affaibli et perfusé, cet enseignant de biologie dénonce une situation qui dure depuis trop longtemps.
Je n'ai pas mangé depuis 4 jours, ma pression artérielle est en train de chuter. Depuis 2014, je ne peux pas me souvenir d'une seule année où nous avons reçu l'intégralité de nos salaires. Parfois, ils nous paient seulement le quart de notre salaire mensuel.
De plus en plus d'enseignants sont contraints de trouver un second travail débrouille pour s'en sortir. Fazel, prof d'art plastique, souligne la responsabilité des autorités kurdes.
Notre grève de la faim est dirigée contre un gouvernement sourd et aveugle. Nous avons protesté par tous les moyens traditionnels, sans réaction. Nous avons même sollicité la Cour fédérale irakienne, qui a jugé que ce devait être à Bagdad de distribuer nos salaires, mais le gouvernement du Kurdistan ne respecte pas cette décision.
Ces retards de salaire sont la conséquence du bras de fer financier qui oppose le gouvernement régional kurde et l'État central irakien autour de la répartition des revenus du pétrole du Kurdistan. Si les écoles sont fermées depuis dimanche, pour ce professeur, cette protestation est une bonne leçon.
Je veux rappeler aux enfants qu'ils apprennent aussi à lire et à écrire pour apprendre à défendre leurs droits. Nous resterons ici jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que nos droits soient respectés.
Cette grève de la faim des professeurs est hautement symbolique puisque la dernière remonte aux années 90 et à la lutte pour l'autonomie du Kurdistan en Irak. Luc Elazo, Sleimani, RFI.
C'est une barre symbolisant l'éternité passée dans les geôles iraniennes. Vendredi, cela faisait 1000 jours que Cécile Kohler et Jacques Paris avaient été arrêtés. Ces deux enseignants français sont accusés d'espionnage. Un troisième français, Olivier Gondeau, est lui retenu depuis plus de 2 ans. En soutien à ce trio d'otages, plus de 200 personnes se sont rassemblées à Paris ce samedi. Parmi elles, Daria Javaheri Farsi. Elle est membre de NEDA d'Iran, une association de défense des droits humains pour les civils et les ressortissants iraniens.
C'est un moment qui est teinté d'un sentiment étrange parce que bien sûr, pour moi en tant que franco-iranienne, je me sens aussi attachée au sort des otages français qu'au sort des prisonniers politiques iraniens. Pour moi c'est une même cause, c'est la question de dire en fait, il y a aujourd'hui en Iran une application du droit qui est un faux droit et la République islamique se permet des traitements inhumains et des exactions à l'encontre de défenseurs des droits humains ou de civils qui n'ont rien fait, qui n'ont pas eu de procès équitable, qui sont détenus dans des conditions, par exemple on sait que Cécile Kohler a été mis en solitaire. C'est ce que Narges Mohammadi, à la prix Nobel de la paix, qualifie de torture blanche. Donc en fait, c'est extrêmement inquiétant de se dire qu'elle est isolée, le coup psychologique que ça peut avoir sur elle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour reconnaître la torture blanche comme effectivement comme une torture à part entière. Et il va falloir continuer pour œuvrer pour leur libération, continuer pour œuvrer aussi à la visibilisation de ce qui se passe dans les prisons iraniennes de toute manière, que ce soit pour eux ou pour les civils iraniens, et plus largement, en fait, se battre contre l'usage des peines punitives à l'encontre de civils, que ce soit en Iran ou que ce soit partout dans le monde.
Des propos recueillis par Elisa Félier. Ennemi de l'Iran, les États-Unis de Donald Trump remportent une victoire dans leur politique anti-immigration. Le président américain a déclaré samedi que le Venezuela acceptait de récupérer tous les migrants illégaux vénézuéliens qui se trouvent aux États-Unis. Cela inclut aussi les membres de gangs. 600 000 Vénézuéliens bénéficiaient d'une protection temporaire contre l'expulsion. Un bouclier supprimé par l'administration Trump ce mercredi. Le président américain qui a aussi confirmé ce samedi les nouveaux droits de douane qu'il avait prononcés la veille. Les produits en provenance du Mexique seront taxés à hauteur de 25%. Même chose pour le Canada, à l'exception des hydrocarbures frappés de taxes de 10%. Et puis les produits chinois seront eux taxés de 10% supplémentaires. La Maison Blanche dit vouloir contraindre les trois pays à mieux lutter contre le trafic de fentanyl, une drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Et puis les habitants de Los Angeles, eux, ne respireront bientôt plus l'odeur de brûler. 3 semaines après l'embrasement, les incendies qui ont ravagé la Californie sont désormais maîtrisés. Ces feux resteront comme les plus violents ayant touché la deuxième ville des États-Unis. Ils auront fait une 30aine de morts et des milliers de déplacés. Nicolas Roca.
Plus de 10 000 habitations envolées en fumée et des milliers de personnes contraintes d'évacuer. Les incendies de Palisades et d'Eaton vont laisser une marque durable sur la Cité des Anges. Une empreinte financière d'abord, alors que les pertes économiques seraient de plus de 250 milliards de dollars selon la société météorologique AccuWeather. Et puis les dégâts vont modifier durablement le visage des deux quartiers les plus touchés par les flammes, Pacific Palisades et Altadena. Une étude publiée cette semaine par des dizaines de chercheurs assure que le changement climatique a desséché la végétation et créé les conditions de l'incendie. Des conditions qui pourraient se répéter à d'autres occasions, notamment l'hiver, lorsque les puissants vents de Santa Ana soufflent sur la ville. La priorité des autorités est d'abord de nettoyer pour reconstruire le plus rapidement possible, a assuré la maire de Los Angeles. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a lui attribué une enveloppe de 2,5 milliards de dollars et signé un décret pour réduire les délais d'obtention des permis de construire.
Nicolas Roca. Et puis en football, après la soirée étoilée de mercredi en Ligue des Champions, il fallait confirmer en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Brest 5-2 ce samedi. Ousmane Dembélé a de nouveau inscrit un triplé, comme c'était le cas lors du match contre Stuttgart mercredi. C'est la fin de ce journal sur RFI. 2h10 à Paris, 1h10 temps universel.